Tournons, si vous voulez bien, ce matin, dans le livre de Luc, chapitre 23, verset 33. Le titre du message, les deux brigands crucifiés. Luc, chapitre 23, verset 33, où il est écrit, « Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. » L'homme divise l'humanité en toutes sortes de catégories, selon leur couleur, leur nationalité, leur clan social. Mais aux yeux de Dieu, il n'y a que deux sortes de personnes dans le monde. Dieu ne reconnaît que deux classes d'hommes. Ceux qui sont sauvés et ceux qui ne le sont pas. Les pécheurs et les saints. Ceux en route vers le ciel et ceux en route vers l'enfer. Et Jésus est celui qui sépare les hommes. Sa naissance divise le temps. À part de quelques exceptions, tout événement de l'histoire de l'homme est daté d'après la naissance de Jésus-Christ. Tout ce qui s'est passé est daté soit avant ou après Jésus-Christ. Chaque fois que les hommes utilisent une date, ils témoignent volontairement ou involontairement de l'historicité de Jésus. Sa naissance est obscure, nous ne connaissons à peu près rien. Quand il était enfant, adolescent ou jeune homme, il a eu un ministère public d'environ 3 ans et demi et a été crucifié comme un criminel à l'âge de 33 ans environ. Pourtant, il a vécu une vie si remarquable, enseigné une doctrine si profonde, prêché un évangile si simple et connu une mort si terrible que partout dans le monde, tous les hommes sont forcés de reconnaître la grandeur de sa personne chaque fois qu'ils inscrivent une date sur un document. Sans cette date, votre chèque, votre document, votre reçu, votre contrat n'est pas valide. Chaque lettre est tamponnée, chaque revue est datée et prouve l'existence du Fils de Dieu. Des centaines de fois par jour, nous sommes mis en face du fait que le Christ, bien que rejeté par un grand nombre, divise le temps. Comme sa naissance divise toute l'histoire, sa mort divise l'humanité. Pendant qu'il était cloué sur la croix du calvaire, deux autres hommes étaient également crucifiés avec lui, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Comme nous avons lu dans le texte de Luc, chapitre 23, verset 33. Et 4 évangiles dans la Bible nous relatent cet événement. Vous savez, la plupart des gens ne voient en eux que 2 malfaiteurs. Mais en réalité, ils représentent tous les hommes. Il s'est écoulé environ 2000 ans depuis leur mort et aujourd'hui, l'un est au ciel et l'autre est en enfer. Pourquoi une si grande différence? Ils étaient semblables l'un à l'autre. On peut lire le récit dans les évangiles. Il n'y a rien qui laisse supposer que l'un était pire que l'autre. Les deux avaient été condamnés par un tribunal romain. Les deux étaient coupables, 2 brigands. Les deux allaient mourir, car justement, ils étaient sur la croix. Et dans le temps, lorsqu'on était crucifié, alors il était évident que nous étions un criminel. Et nous avions été condamnés. Ici, le mot « brigand » signifie « voleur ». Se livrant au pillage. Alors, probablement de grands criminels, peut-être des acolytes de Barabbas, des criminels endurcis qui ne sont loyaux qu'avec eux-mêmes, peut-être des Juifs, ayant une connaissance des coutumes juives. Cependant, l'un est au ciel et l'autre est dans le séjour des morts. La différence réside dans leur attitude envers Jésus. L'un a cru et l'autre non. Et ce matin, j'aimerais parler justement de ces deux brigands. Le brigand qui était perdu. Nous pouvons voir trois choses. Premièrement, que l'homme peut rejeter le Christ le jour de sa mort. Deuxièmement, l'homme peut être très proche du Sauveur, mais être quand même perdu. Et troisièmement, un homme peut demander au Christ de le sauver et être quand même perdu. Premier point, un homme peut rejeter le Christ à l'heure de sa mort. Vous savez, le brigand est sur le point de mourir. Il injure le Seigneur, se moque de lui. Il avait peut-être entendu parler de lui. « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous! » Dans Luc chapitre 23, verset 39. Les véritables conversions sur un lit de mort sont plutôt rares. Les gens disent qu'ils vont y penser quand le temps sera venu. En fait, très peu de personnes ont été sauvées à l'heure de la mort. La Bible ne rapporte qu'une seule conversion sur un lit de mort. Une, afin que personne ne se décourage, mais une seule, afin que personne n'abuse de la bonté de Dieu. Et c'est le brigand. Celui qui a accepté Jésus-Christ. Mais attendre à la fin de sa vie pour faire un choix concernant le salut, c'est très dangereux. Il y a des gens que je connaissais qui m'ont dit un jour, « Ah, je vais attendre. Je vais attendre plus tard. » À la dernière heure, toutes les circonstances sont défavorables au salut. « Ah, quand je serai sur le point de mourir, je me tournerai vers Dieu. » Ecclésiens chapitre 9, verset 12 dit « L'homme ne connaît pas non plus son heure, pareil aux poissons qui sont pris au filet fatal et aux oiseaux qui sont pris au piège. » Faites attention, un seul brigand était sauvé. De nos jours, de plus en plus de gens meurent subitement, sans avertissement. Soit par une crise cardiaque, un accident ou par d'autres causes. Ou une longue période de maladie et on s'attend à prendre du mieux, mais non, à mourir. Nous ne sommes pas prêts à mourir. Et quand ils deviennent tellement malades, ils ne sont pas dans un état qui leur permette de penser au salut. Mais la Bible dit « Voici maintenant le jour du salut ». Si un homme en bonne santé ne se préoccupe pas de son salut, il ne le fera pas quand il sera tourmenté par la souffrance et les douleurs. Car un refus répété d'accepter le Christ émousse la conscience, endurcit le cœur et engourdit l'âme. Oui, un homme peut rejeter le Christ le jour de sa mort. Deuxième point. Un homme peut être très proche du Sauveur, mais quand même être perdu. Le brigand était si proche de Jésus qu'il pouvait entendre ses cris, être témoin de son agonie. Ils étaient proches, car les deux brigands pouvaient se parler, malgré les cris de la foule. Mes frères et sœurs, être proche n'est pas suffisant. Tu peux être né dans une famille chrétienne, élevé dans une famille chrétienne, lire la Bible, prier, assister aux réunions, mais être perdu. À une certaine occasion, Vous avez pris conscience de la brièveté de la vie. Vous avez senti qu'il fallait se préparer pour l'éternité. Votre cœur attendri, vous avez peut-être pleuré. Proche, très proche. Mais parce que vous n'avez rien fait, votre conviction de péché a disparu et vous êtes retombé dans l'indifférence. Et vous lisez la Bible, vous parlez de foi, vous parlez d'un certain Jésus, vous faites du mieux que vous pouvez, vous faites des œuvres, vous aimez les gens. Vous êtes proche, tellement proche. Touché peut-être par le Saint-Esprit, mais votre religiosité prend le dessus et vous retardez le jour de votre salut. Et vous savez, il y a des gens que je connais qui parlent de Jésus, qui font des œuvres, mais pas plus. Alors oui, un homme peut être très proche du Sauveur, mais être quand même perdu. Troisième point, un homme peut désirer être sauvé et être quand même perdu. Le brigand voulait être sauvé, mais qui ne veut pas être sauvé? Il a même demandé au Seigneur, « Sauve-nous! » Mais il a refusé d'être sauvé à la manière de Dieu. On cherche une façon souvent populaire d'être sauvé. Mais être sauvé ne se trouve pas dans les magazines. Être sauvé ne se retrouve pas dans le journal, ni sur Internet. Ce n'est pas une mode. On est ignorant. Mon peuple périt faute de connaissance. Si Jésus se sauvait, il ne pouvait pas sauver la multitude. Il y a une différence entre le salut présenté dans la Bible et celui que prône la théologie moderne. Nous ne pouvons être sauvés que par la mort de Christ. Oui, suivre l'exemple de Christ, mais beaucoup plus que cela, l'accepter en tant que Seigneur et Sauveur. Et honnêtement, un enfant de 3 ans est capable de comprendre cela. Le brigand ne s'est pas repenti. On ne peut pas payer le prix de notre péché, de nos péchés, en se sauvant nous-mêmes par nos propres moyens. Oui, nous avons un désir d'être sauvés, mais avec tant de façons. Bien des religions parlent d'être en quelque sorte sauvés. Les témoins de Jéhovah, par exemple, on parle de 144 000 qui sont sauvés au ciel et le reste vivant sur la terre pour 1000 ans. Du côté des Mormons, on parle d'un salut par les œuvres. L'islam, un salut qui vient de Allah. Dans l'hindouisme, un cycle de réincarnation vers un salut final avec Brahma. Le judaïsme, on parle d'une loi qui sauve le juif. Mais Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Alléluia. Alors, si nous regardons le brigand sauvé, lui, nous pouvons voir 5 choses. Quand nous regardons les événements du brigand sauvé, et ces 5 choses-là sont vraies pour tous ceux qui sont sauvés. Premièrement, il a craint Dieu. Deuxièmement, il a admis qu'il était pécheur. Troisièmement, il a reconnu que le Christ était sans péché. Quatrièmement, il a confessé comme son Seigneur. Et cinquièmement, il a cru à la résurrection du Christ. Premier point, il a craint Dieu. Il a dit à l'autre brigand, « Ne crains-tu pas Dieu? » Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, dit la Bible. Mais les gens n'ont pas la crainte de Dieu. La crainte n'est pas un signe de lâcheté et de faiblesse, bien au contraire. Mais la crainte n'a plus sa place dans la culture populaire et même dans nos églises. Vous savez, nous vivons constamment dans la crainte. Voir le médecin parce que nous avons la... Pourquoi? Parce que nous avons la crainte d'être malade. On épargne de l'argent parce que l'on craint la pauvreté. On assure la maison parce que l'on craint le feu. Il y a des gens qui se marient craignant de rester seuls, etc. Nous dépensons des milliards à la guerre parce que nous craignons d'être attaqués. Alléluia. Mais quand les prédicateurs prêchent la crainte de Dieu, qui, à mon sens, est la crainte la plus importante et écrite dans la Bible, on les traite d'alarmistes et de pessimistes. Mais est-ce que l'on craint Dieu? Est-ce qu'on veut rencontrer Dieu? Sans avoir auparavant accepté le seul moyen d'être sauvé? Savez-vous quoi? Dieu nous presse de fuir de sa divine colère. Dans plusieurs occasions, le peuple de Dieu criait à l'Éternel et voulait se cacher dans les cavernes et les montagnes. Alors, plus notre compréhension de la grandeur de Dieu est grande, plus grande sera notre capacité de le craindre et de le respecter. La Bible dit dans Psaume chapitre 34, verset 10, « Craignez l'Éternel, vous, ses saints. » Mais souvent, c'est un mensonge de l'ennemi. Dans Genèse chapitre 3, verset 4, « Vous ne mourrez point. » Écoutez pas Dieu, « Vous ne mourrez point. » C'est un mensonge. Il faut avoir la crainte de Dieu. Deuxième point, il a admis qu'il était pécheur. Il a plaidé coupable. Qu'est-ce qu'il a dit? « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui as subi la même condamnation? Pour nous, c'est justice. Nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. » On ne peut pas être sauvé si nous ne reconnaissons pas notre état de pécheur. Parce que la Bible dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Il a justement admis qu'il était un pécheur. Qu'il recevait ce qu'il méritait. Troisième point, il a reconnu que le Christ était sans péché. Qu'est-ce qu'il a dit? Verset 41, « Celui-ci n'a rien fait de mal. » En fait, que pouvons-nous dire contre Jésus? Il a guéri des malades, il a enseigné, il a aimé, il a exhorté le peuple, il a donné à manger à la multitude. Celui-ci n'a rien fait de mal. Quatrième point, il a confessé comme son Seigneur. Il a reconnu que Jésus était Dieu. Cinquième point, il a cru à la résurrection du Christ. Il a dit, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Quand tu viendras dans ton règne. Et Jésus a répondu, « Je te l'ai dit en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Et le brigand est probablement mort quelque temps après Jésus. Mais Jésus aurait pu dire, « Qu'est-ce qu'un bandit peut bien faire avec moi? » Vous savez, Jésus, l'incarnation d'un être parfait, trois fois saint. Le bandit avait peut-être suivi les chefs religieux, était sûrement un criminel, Pourtant, il a été le dernier compagnon de Jésus sur la croix. Pas un disciple, pas un serviteur, pas un apôtre, le dernier compagnon sur la croix avant de mourir avec Jésus, c'est un larron, un brigand, un bandit. Ouais, mais Paul-André, tu veux-tu nous comparer à des bandits? Quand tu parles de deux, les deux brigands sur la croix, et tu compares ça à justement toute l'humanité entière? Vous savez quoi? La vie de ces bandits-là tournait autour de quoi? De biens matériels? D'argent? De satisfaction de désirs personnels et charnels? Bref, ce qui préoccupe beaucoup la société nord-américaine. Une société qui ne se préoccupe pas de religion, pas de moralité, en général peu de justice, préférant les choses du monde à celles de Dieu. Et souvent, ils vont employer leur dernier souffle à exprimer leur colère refoulée contre la seule personne capable de leur procurer de l'espoir. Jésus. Qu'est-ce qu'une personne souffrante va dire? Si ton Jésus est si puissant et si grand, qu'il me guérisse et après je croirai. Mais, frères et sœurs, c'est le contraire. Il faut que tu croies. En fait, le dernier compagnon de Jésus, le brigand, a été probablement un des premiers à inaugurer la route du paradis avec Jésus. Non un patriarche, non un prophète, non un grand roi, mais un voleur repenti. Car aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Parce que Jésus a inauguré le troisième ciel. Jésus a inauguré le paradis alors que c'était fermé. Les gens qui étaient sauvés dans l'Ancien Testament allaient dans le séjour des morts, dans le sein d'Abraham. Et quand Jésus est mort, Jésus a inauguré. La Bible dit qu'il est descendu dans les régions inférieures de la terre, mais après ça, qu'il est monté à la droite de Dieu le Père. Il a ouvert le chemin amenant tous les justes de l'Ancien Testament. Et après, tous les justes, les gens repentis du Nouveau Testament, l'ont suivi au ciel. Et justement, le larron, le brigand sauvé, est un de ceux-ci. Vous savez, l'inauguration d'un événement, on trouve des personnalités de ce monde. Si on parle d'un amphithéâtre, d'une salle de spectacle, d'un bateau de croisière, est-ce qu'on invite les gens de la rue? Jamais. Je vais vous donner un exemple. Pensez-vous que le maire Labeaume va vous inviter à l'inauguration du nouvel amphithéâtre? On parle d'une visite guidée, on parle probablement de petits plats, de musique, de discours, de tout le tralala. Jamais. Il va y avoir des ministres, des députés, des gens d'affaires de Québec, des personnalités sportives, peut-être l'archevêque de Québec, des journalistes pour une bonne couverture médiatique, mais jamais quelqu'un sorti de prison. Pourtant, c'est nous qui payons l'amphithéâtre. Bref, et c'est correct. Mais le ciel, c'est l'inauguration du ciel. C'est quelque chose d'extraordinaire que Jésus a probablement montré comme l'inauguration sublime Et il l'a montré à tous les justes de l'Ancien Testament et tous les justes du Nouveau Testament qui mouraient. Et le larron était là. Vous savez, les portes célestes, les anges, les mets somptueux, la beauté du ciel, la vie à venir. Je vois les patriarches entrer, les prophètes, les martyrs, les serviteurs, les juifs. Et oui, entre autres, un voleur également. Quelle étrange différence. Et peut-être, je ne sais pas, peut-être les anges ont dit, mais qui êtes-vous? Il y a beaucoup de monde à cette inauguration. Mais Jésus a dit, aujourd'hui même, tu seras au paradis. Le paradis inauguré. Et le dernier compagnon de Jésus est un brigand. Pas un pharisien, pas un sadducéen, pas un érudit du temps, mais un n'importe qui. Mais la Bible dit, si tu vois un homme qui se croit sage, il n'y a plus à espérer d'un insensé que de lui. Proverbe 26, chapitre 12. Une grâce qui sauve les injustes. Jésus a dit, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Des pécheurs qui se repentent. Des gens qui savent qu'ils font mal, mais qui se repentent et qui l'acceptent comme Seigneur et Sauveur. Matthieu chapitre 13, verset 41, le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Matthieu 12, verset 36, il est écrit, « Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée, car par tes paroles tu seras justifié, par tes paroles tu seras condamné. » Et si Dieu a sauvé un brigand, Dieu nous sauvera. Un homme crucifié, condamné, coupable de ses crimes et qui les admet, qui n'a aucune préoccupation des choses spirituelles avant qu'il rencontre Jésus, le dernier que l'on penserait qui serait sauvé. Pourtant, Jésus-Christ a dit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. » Il n'a rien fait pour mériter le paradis. Aucune œuvre. Aucune réputation. Il n'avait rien. Ceux qui pensent qu'ils peuvent être sauvés par les œuvres, alors qu'est-ce qu'on pense du brigand sauvé? Il n'a pas eu le temps de faire des œuvres. Il n'avait aucune réputation. Pourtant, il y a des gens qui vont dire « Seigneur, Seigneur ». Et il y a des gens qui vont dire « N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles? » Mais le Seigneur va dire « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Je ne vous ai jamais connu. Quel contraste avec des gens qui pensent être sauvés, des gens qui pensent qu'ils sont connus de Dieu. Mais des inconnus aux yeux de Dieu. Des gens qui ne se sont pas reconnus comme pécheurs. Des gens qui n'ont pas dit, qui n'avaient pas besoin d'un sauveur. Et c'est la clé. Les circonstances de la mort de Jésus sont bien différentes que celles d'un roi ou d'un seigneur. Jésus n'est pas mort dans une église entre deux bougies, dans une église où il y a des chantres, qu'il y a une cérémonie, comme il y avait dans l'Antiquité en Égypte, quand un pharaon mourait, qu'il y avait une cérémonie, qu'on plaçait le pharaon dans un sarcophage, qu'il y avait un temple dédié en son nom. Jésus n'est pas mort comme le président Kennedy ou qu'il y a eu une procession dans les rues de Washington ou qu'on a donné probablement un nom à une ou plusieurs artères. Mais Jésus est mort sur une croix raboteuse entre deux voleurs où les critiques fusent, les voleurs maudissent, les soldats jouent, les passants crient, rit et pleure. Sur une route où ils ont placé un écriteau en trois langues, sur une croix où il y avait de la sueur, des crachats, du sang et probablement des mouches. Ça, c'est la façon que Jésus est mort. Quel contraste à ce que le monde peut penser. Quel contraste avec ce que le monde peut penser. Souvent, on va penser, on ne pensera pas que Jésus va mourir, que Jésus est mort pour un criminel, que Jésus va seulement prendre des gens qui sont bien, des gens qui font des œuvres, des gens qui ont une réputation. Des gens qui ont une religion. Non. Jésus a pris deux brigands pour montrer à l'humanité qui pouvait être sauvé et qui ne pouvait pas l'être. Mais personne n'est exclu du salut de Dieu, vous savez. Parce que c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Il ne faut pas prendre l'exemple de ces brigands pour dire qu'il faut souffrir pour être sauvé. Plusieurs ont cherché à démontrer leur dévotion. En 1965, Daniel Wazwa, au Kenya, a obligé son épouse de le crucifier pour ses péchés et ceux du pays. Alors son épouse s'est effondrée sous le choc quand elle a vu son mari crucifié, elle en est morte. Et lui, il est mort d'une infection suite à la crucifixion quelque temps après. Très mauvaise interprétation. Et de plus, n'attendez pas d'être vous-même sur une croix, d'être dans le fond du baril. C'est un processus qui peut devenir très pénible. Oui, l'homme sur la croix ne commandait plus son destin, avait perdu tout contrôle de sa vie. C'est quelqu'un qui agonisait, qui souffrait. Oui, qui l'a conduit au Sauveur. Mais c'est un processus qui peut devenir très pénible. Dans Hébreux chapitre 4, verset 7, il est écrit « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Deux hommes, deux brigands, pécheurs condamnés à mourir, mais deux décisions face au destin. L'un a cru en Jésus et l'autre non. Deux morts différentes. L'une sans le péché et l'autre dans le péché. Deux verdicts, l'un sauvé et l'autre condamné. Deux endroits, l'un au ciel et l'autre en enfer. Frères et sœurs, l'humanité a seulement deux choix. Croire en Jésus ou le rejeter. Pendant qu'il est encore temps, faites le bon choix. Parce que c'est une question de vie ou de mort. Amen. Prions.